Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. On va recevoir dans quelques instants Gilles Laporte qui a écrit un nouveau roman aux presses de la Cité. Et son titre, c'est Les Amants de la Lumière. Eh bien, on va justement faire la lumière sur ce roman dans quelques instants. Voilà, et eh bien Gilles, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Craponne. Alors, pour vous resituer un petit peu, vous êtes lorrain de naissance, hein, vous êtes né dans les Vosges. Et oui. Maintenant, vous résidez où ?
Toujours dans les Vosges, dans mon village natal.
Ah ben,
je n'ai pas quitté mon village natal depuis mon origine, c'est-à-dire depuis 82 ans.
Ça, c'est beau. C'est bien. Hein, Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, sinon, dans la vie ?
J'ai travaillé un peu dans des domaines très très différents. J'ai d'abord enseigné pendant 5 ans, puis je suis parti dans l'inspection d'assurance après avoir fait des études complémentaires de droit, puis je suis entré dans l'industrie pour diriger le personnel d'une entreprise industrielle pendant 15 ans, puis ensuite je suis passé dans l'agriculture, toujours en direction de personnel et de communication pendant 15 ans. Et depuis 2005, je suis consacré exclusivement à l'écriture.
Très bien, ben c'est une vie bien remplie déjà, hein, je dirais.
Je crois, oui. Oui. Si on ajoute à ça que j'ai fait mon service militaire à l'école d'officier de réserve et que je suis capitaine honoraire d'infanterie. Donc oui, j'ai une vie qui ne m'a pas laissé une heure d'ennui.
C'est bien, hein, c'est bien. Parce que quand on s'ennuie, c'est pas très bien. Donc voilà.
Non.
Alors on va en venir à ce livre, Les Amants de la Lumière. Alors on va comprendre pourquoi, parce que on va parler de cristallerie de Baccarat. Quand on parle de Baccarat, on comprend bien que le cristal de Baccarat, c'est connu et reconnu dans le monde entier. Là, vous allez nous mettre deux personnages en lice, je dirais. Alors il y a Chira, enfant d'immigrés italiens. Vous nous dites que c'est une beauté solaire. Et puis il y a Lucien, enfant d'immigrés italiens, il faut le préciser aussi, Chiara. Et Lucien qui est fils de verrier, lui, et donc qui est mort en déportation et qui ont pour horizon une ville en pleine renaissance après les bombardements de 1944. Alors donc tout cela va nous amener à ce roman, puisqu'ils ont la même passion en fait, hein.
Oui, ils sont tous les deux passionnés par le travail du verre. Cette passion leur est venue de leurs parents, qui étaient eux-mêmes déjà proches de cette tradition industrielle. Ils travaillent tous les deux dans la manufacture de Baccarat, qui est une manufacture internationalement reconnue, bien sûr, depuis le XVIIIe siècle. Et ils ont des rôles complémentaires. Lui est à la fabrication, c'est-à-dire qu'il est à son banc de verrier, il souffle le verre. Et elle est en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'elle est ce qu'on appelle une choisisseuse. Elle contrôle tous les produits qui sortent de la chaîne et elle élimine de façon absolument sans aucun regret, elle élimine toutes les pièces qui présentent le moindre défaut. Donc c'est une vie de deux vies complémentaires dans la même entreprise et qui sont toutes deux teintées par l'exigence de perfection.
Oui, puisqu'on ne peut pas se permettre, quand on parle du cristal de Baccarat, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des impuretés. Hein.
Bien sûr.
Et donc, alors on va voir que c'est ce qui pourrait les relier, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque Lucien a fait des avances à Chiara, je ne sais pas comment dire, on dit Chiara, non ? En italien, non ?
Chiara.
Chiara, oui, c'est ça. Mais Chiara pas l'air de vouloir accéder à ses volontés. Elle lui dit qu'elle veut vivre libre. Donc, ils vont faire, on peut dire, chacun leur route de leur côté. Donc, il y aura des rencontres, des expériences, bien sûr, hein, quand on fait comme ça. Mais il y a quelque chose qui va quand même à un moment les réunir.
Oui, Clara a été marquée, a été traumatisée par le comportement de son père, qui n'a pas été correct avec elle durant toute son enfance. Donc elle a beaucoup de difficultés à nouer une relation étroite, durable avec un homme, quel que soit l'homme, d'où sa résistance aux avances et aux déclarations de Lucien. Donc il décide de continuer à rester en relation, mais en vivant chacun de son côté. Ils vont rester dans ce domaine du verre qui les passionne tellement. Elle va partir dans toute la région nord de la Seine, dans ces pays qui sont des pays traditionnellement réputés pour le travail du verre en vitraillerie notamment. Elle va aller à Troyes, capitale de Vitraux. Elle va aller à Reims, dans sa cathédrale, à Beauvais, dans l'église Saint-Étienne. Elle va travailler dans tous ces lieux où elle va apprendre l'art du vitrail. Elle va devenir une vitrailliste reconnue et renommée. Lui, de son côté, va aller se balader au sud de la Seine, dans des régions telles que, dans des pays tels que Vézelay, Auxerre, Orléans et Chartres. Et puis il va faire un détour par la Tunisie, parce qu'il va découvrir une amie, une relation très étroite, lui ayant rappelé que Carthage ayant été la capitale du verre dès la Haute Antiquité, il va aller vers la Tunisie. Bon, voilà le cheminement de ces deux êtres qui ne se rencontrent que très rarement, mais qui s'écrivent très souvent.
Oui, donc il reste en relation. Pendant toute cette séparation, ils ont quand même une relation à quelque part.
Oui, c'est un roman en partie épistolaire parce qu'ils s'écrivent et ils se racontent absolument tout de leur vécu, de leurs rencontres, de leurs difficultés, de leur bonheur aussi. Ils ne se cachent rien de leurs existences et ils maintiennent tout de même, à chaque fois qu'ils s'écrivent, ils maintiennent le désir de se retrouver un jour.
Et alors, Chiara, quand vous dites qu'elle a eu des problèmes avec son père, est-ce que Lucien le sait, lui?
Lucien le sait. C'est la raison pour laquelle Lucien comprend fort bien la distance que Karam veut maintenir entre eux. Il le comprend fort bien, il en souffre bien sûr, mais il ne condamne pas ce renoncement de Kara à une vie de couple.
Alors vous avez parlé de Vézelay qui a une abbatiale, hein, bien sûr, comme la Chaise-Dieu, parce que je crois qu'en plus c'est la même au niveau de la construction.
Oui, il y a des ressemblances entre les deux. La différence, c'est que Vézelay était vraiment un lieu très 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 fort, très puissant en matière de tellurique et cosmique, et aussi d'un niveau spirituel étonnant, puisque l'une des étapes les plus importantes, pour ne pas dire l'un des départs les plus importants des chamans de Compostelle. C'est le lieu où est vénérée Sainte Marie-Madeleine et qui attire des milliers, voire des dizaines de milliers de pèlerins tous les ans depuis le Moyen-Âge.
Oui, et puis nous, bien sûr, on est en plein milieu des chemins de Compostelle, hein, puisque je crois avoir lu, pas me tromper, il n'y a pas longtemps, au Puy-en-Velay, ils n'avaient jamais vu autant. Je crois qu'il est passé pratiquement cette année 30 000 pèlerins, ce qui s'était jamais arrivé, je crois, voilà. Je crois pas me tromper.
C'est vrai, oui.
Alors, bon, on parle de vitraux, bien sûr. Alors, quand on parle d'abbatiale, on parle de cathédrale. Les vitraux, et c'est devenu finalement, ça continue d'être un métier et un métier d'art, hein, puisque ben, il faut en fabriquer, c'est vrai, mais il faut aussi restaurer, et ça, c'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde.
C'est vrai, c'est un métier difficile, qui est à la fois un métier d'artisan, d'ouvrier, de créateur, d'artiste. C'est un métier qui nécessite d'accepter l'éclairage un peu particulier venu d'en haut. C'est un métier qui est très très exigeant, mais qui est aussi très très gratifiant parce que il ouvre sur des perspectives infinies, très très difficiles. mais remarquablement passionnant.
Oui, d'ailleurs, on le voit autour de nous, en Haute-Loire, on a des artistes vitriers hein, qui créent pour revendre après à des personnes. Bon, des vitraux, je dirais, moins imposants que dans les cathédrales ou dans les abbayes, mais quand même des belles choses.
Oui, et c'est un métier qui est assez mal connu. On en admire bien sûr toutes les œuvres dans les églises, même les humbles églises de village et les cathédrales, mais les auteurs de ces œuvres merveilleuses sont généralement peu connus. Ce sont des gens discrets qui fréquentent les lieux dans lesquels ils travaillent lorsque le public en est absent, ou qui sont dans leur atelier en solitaire, et qui sont face à des figures sacrées ou profanes, mais de manière très très secrète.
Oui, mais quand on voit le résultat, il y a quand même des choses qui sont très belles, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, justement, les amants de la lumière, la lumière qui rentre dans les différents édifices, il faut que ça soit bien composé pour que s'il y a du bleu, du vert, du rouge, il faut que ça éclaire de belle manière dans ces édifices.
Il faut que ça traduise aussi une sorte d'inspiration. Lorsqu'on est face à l'arbre de Jessé dans l'église de Saint-Étienne de Beauvais, par exemple, que je préfère très largement à la cathédrale, on ne peut être que transporté par la lumière qui est filtrée, proposée, créée, recréée par ces vitraux des 13e, 12e, 13e siècle.
Et alors vous-même, pour écrire ce livre, vous êtes baladé un petit peu dans les abbayes, dans les cathédrales, pour voir un peu tous ces vitraux?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas décrire un paysage si je n'y ai pas marché, admiré le ciel. Je ne peux pas parler de personnages dans des situations particulières si je n'ai pas expérimenté moi-même ces situations. Je suis donc allé dans toutes les églises dont je parle là, dans toutes les régions dont je parle, et évidemment à Vézelay, où mon héros va vivre une relation très 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 particulière avec une créatrice de verre, mais de manière très très différente. Elle ne crée pas des vitraux, elle sculpte le verre au jet de sable. Et là, j'ai voulu rendre hommage à une amie que j'ai très très bien connue, qui était une amie intime et qui était une artiste qui travaillait sur le verre industriel à la pression du sable qui était propulsé par un compresseur absolument puissant. Donc c'est une autre forme de situation. J'ai bien connu cet artiste dont je parle. Ce livre est un hommage, je le répète, et elle a aussi révélé la lumière d'une autre manière et d'une manière qui lui vaut aujourd'hui une reconnaissance internationale, même si elle s'est tuée en voiture à l'âge de 42 ans. On était en 83,
Ah,
1983.
alors ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre, en hommage à cette fille, cette femme, pardon.
Oui, en partie. En partie, j'ai très bien, on était très amis tous les deux. J'ai assisté, pas participé, mais assisté à la création de la plupart de ses œuvres, dont sa dernière œuvre, qui était une œuvre monumentale commandée par l'entreprise Saint-Gobain Industries. C'était une fontaine de verre de 3,50 m de haut, 3 m de large, destinée au nouveau siège social de Saint-Gobain à Paris La Défense. J'ai assisté à la création de la maquette, j'ai assisté au travail sur les plaques de verre industriel pour les 7 premières plaques, parce qu'elle n'a pas pu la terminer, elle s'est fait en voiture, donc elle était à 7e. Donc j'ai voulu absolument lui rendre hommage un jour. Ça a tardé parce que je n'étais pas mûr pour le faire, et la relation avec elle était tellement puissante qu'il fallait qu'elle s'apaise un peu. Donc voilà, c'est maintenant le moment de lui rendre hommage. Elle s'appelait Yuta Kuni, on peut voir tout ce qui la concerne sur Internet aujourd'hui. Ses œuvres sont dans deux musées très très importants, un musée d'Allemagne et deux musées en Allemagne.
Elle était de quelle origine? Parce qu'avec un prénom comme ça.
Elle était d'origine autrichienne
Ah,
et
d'accord.
elle était arrivée dans les Vosges par mariage, elle avait épousé un industriel des Vosges, un industriel du papier des Vosges.
D'accord. Alors là, on est quand même dans le vitrail monumental. Hein.
On est dans la sculpture sur verre monumentale, qui est une autre forme d'expression, bien sûr, du travail de vitrailliste, mais complémentaire. Aussi bien le vitrailliste invite la lumière à traverser son verre qu'il a créé pour la révéler au profane. Jutta, elle, sculptait le verre de l'intérieur, elle l'attaquait au jet de sable, des blocs de verre impressionnants qu'elle attaquait de l'intérieur pour y faire pénétrer la lumière et la révéler d'une autre manière.
Ouais, alors bon, ça demande quand même un savoir-faire, je présume, assez énorme, hein, parce que oui, c'est très différent en fait de ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on peut voir d'un vitrail. Là, c'est vraiment un travail énorme, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, donc c'est la première fois que j'entends. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de terrible, enfin terrible de. Il faut le faire, quoi. Voilà, c'était. Il n'y avait pas beaucoup qui faisaient ça, en fait. Hein.
Non. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Elle était la disciple d'un sculpteur italien qui s'appelait Francesco Sommaini, ils étaient tous les deux, je crois, les seuls ou parmi les très très rares au monde qui pratiquaient la sculpture de ce genre dans les blocs de verre industriel.
Et alors, elle n'a pas eu de personnes qui se sont intéressées à ça et qui auraient pu, avec elle, venir apprendre un petit peu.
La transmission des gestes d'artistes est toujours quelque chose de très mystérieux. Non, ça a été une époque, les années 1960-1985-90, une époque où les artistes s'intéressaient au verre industriel. Un peu moins maintenant. Je dis un peu moins, il y en a tout de même. La mère de cet artiste a créé un prix qui porte son nom et qui est attribué tous les 2 ans à de très grands artistes internationaux. Donc ce mode de création existe toujours, mais tout de même est moins important en nombre de pratiquants que les autres formes de création.
Oui, puis déjà, c'est peut-être moins facile à réaliser parce que vous dites qu'on souffle le sable avec des souffleries spéciales. Donc déjà, ça demande un matériel un peu plus important.
Ah ben, c'est un matériel impressionnant. Il faut un compresseur très très puissant. Il faut une cabine complètement isolée dans laquelle pénètre l'artiste, qui lui-même revêtu en plus d'un scaphandre, parce qu'il ne s'agit pas qu'il se mette à inhaler les poussières de verre ou le sable qui est projeté. Tout ça, c'est de la silice qui attaquerait les poumons. Donc, elle est quasiment dans une combinaison spatiale à l'intérieur de sa cabine de sablage.
Oui, voilà. Bah oui,
donc, c'est une installation industrielle très, très impressionnante.
Oui, on peut le voir, ça encore, ou plus du tout?
Son atelier a été fermé et dispersé après sa mort. Donc là, oui, mais je pense que dans d'autres endroits, c'est encore visible.
Ça existe encore, en fait, alors?
Je pense, oui.
D'accord. Alors, pour en revenir à notre livre, hein, Les Amants de la Lumière, ça nous a permis de découvrir une autre sorte de vitrail. Alors, c'est Chiara et Lucien, bon, on voit qu'ils ont pas des destins différents, mais ils ont des expériences différentes. Et bon, bien sûr, c'est le roman qui va le révéler. Est-ce que Chiara va arriver à passer au-delà de ce qu'elle a vécu avec son père et puis de se laisser peut-être séduire par Lucien, quoi.
C'est l'histoire de ce livre qui va livrer les clés de ce que vous avancez. Oui, elle va mûrir de son côté, elle va faire des rencontres, elle va rencontrer d'autres hommes ne comprendront pas forcément ce qu'elle a vécu, qui ne l'admettront pas forcément. Mais elle va à côté d'eux, à leur contact, et en partageant avec eux quelques instants de son existence, elle va apprendre à dominer ce qu'elle a vécu et qui l'a traumatisé. Donc, elle va revenir vers Lucien au moment de sa vie où la chose est devenue possible, grâce à l'apprentissage qu'elle va effectuer aussi bien dans son travail de vitrine que dans la rencontre avec d'autres hommes.
Alors justement, parce que au début vous dites qu'elle a une beauté solaire, alors c'est vrai que si elle est très
Oui.
belle, ben les hommes sont d'autant plus attirés.
Elle est très convoitée, oui.
Oui, ben ça se comprend, non?
Oui, bien sûr, ça se comprend. Évidemment.
Oui, mais eux ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, alors que Lucien, lui, est tout à fait au courant, et c'est pour ça qu'il est plus patient, on va dire.
Oui, bon, les autres ne sont pas au courant et les autres ne perçoivent pas de la même manière que lui ce qu'elle exprime de profond, ce qu'elle exprime de spirituel. Elle rencontre par exemple un professeur de philosophie qui va la noyer sous des informations très très intellectuelles avec des contraintes qui frisent la dictature intellectuelle, le terrorisme, j'allais presque dire, lui le sachant, face à elle qui n'est pas diplômée mais qui ressent. Donc c'est une autre forme d'apprentissage qu'elle va faire auprès de lui, lui qui va profiter de sa beauté, qui va en user comme il userait de n'importe quel autre objet, malgré toutes les leçons de morale qu'il peut dispenser, aussi bien à ses élèves qu'à elle-même.
D'accord, oui, alors donc on comprend que toutes ces rencontres, ben, en fait, vont la faire grandir, et
Oui.
surtout, tout doucement, ben, elle va prendre le dessus, hein, c'est ce qu'on peut dire, en oubliant un peu une enfance contrariée, et Lucien, qui lui a été très patient, ben, peut-être que c'est ce qui va séduire Chiara.
Oui,
Donc.
jusqu'à ce que lui, ensuite, découvre une autre culture. Parce que sa relation avec la sculpteur sur verre, dont on vient de parler, elle l'oriente vers Carthage, l'oriente vers la Tunisie. Il va aller là-bas parce qu'elle lui explique, Yota lui explique que c'est là-bas qu'est né le travail du verre, le verre filé au chalumeau. Il va donc aller là-bas et il va y passer quelques années où il va faire la connaissance d'une jeune Tunisienne qui va, elle, à sa manière aussi, l'initier lui et lui faire découvrir ce qu'est la véritable relation entre un homme et une femme.
D'accord, oui, alors c'est quand même un peu compliqué l'histoire là, parce que.
Ce sont deux démarches initiatiques.
Ah oui, c'est ça,
Elle, de
voilà.
son côté, et lui du sien. Elle, dans un pays qui est le pays de traditionnel, historique du travail du verre sous forme vitrail, lui, dans un pays de soleil, de désert et d'une autre culture diamétralement opposée à la nôtre, mais dans laquelle il va atteindre une autre forme de spiritualité.
Très bien, donc Gilles Laporte, Les Amants
Ce
de la
sont
Lune. Pardon.
deux aventures. C'est un roman d'aventure,
Ah bah
d'amour intense et d'aventure.
oui,
Et d'aventure.
on comprend bien que c'est de l'aventure, hein. Tout ce que vous nous avez expliqué déjà, ils vont se balader pas mal, hein. Donc chacun à leur manière, et finalement, ben, on verra la chute du roman, hein, voir comment ça va finir, hein, puisque ça aurait été très long quand même, ça va durer des années, hein.
Ça va durer quasiment une vie.
Oui, quasiment, donc voilà, bon, ben.
Une vie d'engagement professionnel, une vie d'engagement spirituel, une vie de voyageur, de voyageur de l'esprit, aussi bien que de pays.
Donc il fallait qu'ils soient très patients l'un ou l'autre pour enfin se retrouver, c'est ce qu'on dira ou ce qu'on lira dans votre roman. On a fait le tour à peu près, oui.
Et ils vont se retrouver aussi grâce à l'entremise d'un vitrailliste absolument exceptionnel qui s'appelait Gabriel Loire, qui était de Chartres. Et c'est lui, à son insu, qui va les rassembler. Les ateliers Gabriel Loire existent toujours à Chartres aujourd'hui et ils produisent toujours des vitraux qui sont renommés dans le monde entier. Gabriel Loire, le fondateur de ces ateliers, qu'ils vont rencontrer, que les héros vont rencontrer dans les années 90, 2000, ces ateliers existent toujours. Et ils vont se réunir dans la lumière que transmet le vitrail de Gabriel Doire.
Très bien. Alors, juste, peut-être j'aurais dû vous le demander un petit peu plus tôt, mais c'est né comment? C'est né d'une histoire qui a été vécue par ces deux personnages ou c'est sorti de votre imagination?
C'est un roman complètement imaginaire, bien sûr, comme la plupart de mes romans, mais j'y ai logé des personnages historiques auxquels je tiens beaucoup. Je vous ai parlé de cet sculpteur du verre au jet de sable. Elle a réellement existé. Je viens de vous parler de Gabriel Doire, il a réellement existé. Ce sont ses fils et petits-fils qui aujourd'hui travaillent, créent encore dans l'atelier créé par le père et le grand-père. Donc j'y ai injecté des personnages historiques, mais toute la trame de cette histoire est le fruit de mon imagination, qui a été à l'origine lancée par l'église de mon village. Je vous disais que j'habite un village vosgien depuis ma naissance, je ne l'ai pas quitté. Et l'église de ce village, les verrières sont des créations de ce verrier magnifique. Et ce vitrier magnifique était Gabriel Doire. Donc j'ai vu ces vitraux posés dans les années 1950 et je m'étais dit depuis longtemps qu'il faudrait bien que j'évoque cette création exceptionnelle dans un de mes romans. Et voilà, c'est fait.
Oui, je pense que vous avez fait passer votre passion et ce que vous aimez donc dans le vitrail. Et on a découvert un petit peu plus quand même qu'il y a des artistes, et notamment cet artiste que vous avez dit là, votre ami, qui faisait vraiment du vitrail monumental. Mais on voit que c'est vrai, on peut dire un peu que c'est des artistes de l'ombre, non? C'est contradictoire quand même, dire que c'est des artistes de l'ombre et qu'ils font sortir la lumière.
Mais qui révèlent la lumière. Oui, bien sûr. J'aime bien votre formule. Elle correspond très exactement à ce que j'ai raconté de ces personnages.
Eh bien, Gilles, merci d'avoir été avec nous. Alors, avant de vous quitter, j'ai toujours la question traditionnelle à tous les auteurs, les écrivains. Vous avez toujours un petit livre sous le coude, là, je pense.
Oui, bien sûr.
On va partir.
Oui, bien sûr, j'ai commencé.
Oui, on parlera plus de vitrail.
Non, on parle plus de vitrail, mais on parle encore d'une sorte de d'une autre forme de révélation de la lumière.
Ah, alors deux mots, non? Non.
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 Je préfère entretenir le mystère.
Très bien. Donc, après le mystère de la lumière qu'on a révélé un petit peu, là, il y a un autre mystère. Bon, ben, c'est bien.
Oui.
C'est un livre qui va sortir l'année prochaine, non?
Il est prévu en publication l'année prochaine. Toujours auprès de la cité.
Bien sûr. Eh bien, écoutez, Gilles, merci d'avoir été avec nous. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous, puis vous m'avez appris beaucoup de choses, hein, bien sûr. Et maintenant, je regarderai peut-être les vitraux de façon différente.
Alors, merci, ce que vous me dites est très important. Ça veut dire que je n'ai pas travaillé pour rien.
Ah bon, on ne travaille jamais pour rien.
Beaucoup.
On ne travaille jamais pour rien.
Mais s'entendre dire que le travail a produit un autre regard sur le monde, pour moi, est très très important.
Et alors, vous voyez, pour terminer ici, nous aussi, c'est une petite commune, hein, et on a des artistes qui ont ouvert une boutique, des créateurs, et justement, dans ces créateurs, eh bien, on a des personnes qui fabriquent des vitraux. Donc, vous voyez, comme quoi, tout se rejoint.
Il n'y a pas de hasard.
Peut-être. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Puis, longue vie dans votre Lorraine natale. Hein.
Merci.
Merci à vous d'avoir.
Merci à vous. Et encore une fois, bravo pour votre soutien à la littérature. Merci.
Ah, bah écoutez, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, hein, parce que maintenant, depuis le temps, 43e année de radio, donc c'est bon, hein, libre. Il y en a des gens qui vous disent « c'est sympa, vous parlez de nous et tout ». Je dis « mais sinon, si on ne parle pas de vous, on sert à quoi ?» À rien, si c'est pour passer de la musique toute la journée, les ordinateurs savent le faire, hein, sans nous. Hein, voilà. Donc on découvre des gens comme vous, d'autres écrivains qui écrivent d'autres choses Et c'est ce qui est bien, quoi. C'est le sel de la vie, je dis moi. Voilà. C'est mon idée. Et je vous
C'est de
souhaite.
la partage. Merci.
Très bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.
Merci, merci. Au revoir, à bientôt.
Voilà, donc on était avec Gilles Laporte pour son dernier roman, Les Amants de la Lumière. Alors, je vous répète toujours pareil, mais cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Invité du jeudi. Aujourd'hui, c'était Gilles Laporte, Les Amants de la Lumière, un excellent roman à découvrir et à consommer sans modération.